Voilà, il est précisément 19h sur France Culture. Bonsoir Zoé Suez.
Bonsoir Frédéric.
C'est
bonsoir
Soft Power jusqu'à 20h30. Qui est Hop?
Soft Power. Frédéric Martel. This is why I'm hot.
This is why I'm hot. Voilà, bonsoir à tous. On parle en cabine, on parle en studio. Oui. Bienvenue dans Soft Power, magazine d'industrie culturelle et du numérique de France Culture, en direct jusqu'à 20h30. Alors ce soir, un peu décalé par rapport à la question des gilets jaunes, dans Soft Power, je vous propose de réfléchir à un tout autre sujet, à la formation en France, notamment pour se préparer à la transition numérique. Faut-il se former au code, comme on l'entend souvent, le code informatique? Si oui, à quel niveau et comment? Faut-il le faire en formation initiale ou en formation continue? Ce sujet a l'air, comment dire, un peu décalé, je le disais, mais il est central pour préparer notre pays à la transition numérique et d'une certaine façon accompagner par la formation les mutations du monde du travail. Si la majorité des emplois de demain n'existent pas encore, comme on l'entend souvent, c'est écrit dans les journaux, dit-on, il faut peut-être s'y préparer. Alors sur ces questions, j'ai invité ce soir trois professionnels de l'enseignement, trois professionnels très différents pour décrypter cette mutation et nos besoins nouveaux en formation. D'abord vous, Bernard Ramanantsoa, vous avez été le patron d'HEC, la première école de commerce française, pendant plus de 20 ans. Et vous avez été disrupté, si on peut dire, vous avez été transformé par le numérique. Vous êtes aujourd'hui directeur général honoraire d'HEC, ce qui vous donne plus de liberté de parole, sans doute. On va raconter cette transition numérique avec vous. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
À vos côtés, Romain Paillard, cofondateur du Wagon, une formation accélérée au métier du numérique. En 9 semaines, je crois, ce qu'on appelle un bootcamp. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, Frédéric.
Enfin, Frédéric Bardot, président et cofondateur de Simplon, simplon.co, qui s'occupe des réorientations de carrière, notamment liées à Pôle emploi ou à la formation continue pour tenter de soulager les métiers en tension tout en créant des emplois. Bonsoir.
Bonsoir, Frédéric Bardot.
Toujours au sommaire de cette émission, dans un instant, l'actualité de la politique culturelle, des industries créatives et des médias. Et puis, en seconde partie d'émission, à 20h, l'invité innovation, ce soir, avec vous, Zoé Suez.
Elle s'appelle Séverine Latuyère, elle est productrice d'un nouvel objet, un objet qui est à la fois un roman graphique, un livre et bientôt une application qui a été présentée ce week-end au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse qui est en train de s'achever à Montreuil. On parlera avec elle donc de ce projet, un projet magnifique qui raconte l'histoire d'une enfant exilée, et on reviendra sur cette question, pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui très peu de contenu et de livres intéressants pour les enfants sur les tablettes et sur les écrans alors qu'ils y passent tout leur temps? Pourquoi est-ce qu'on a encore du mal à trouver des contenus pédagogiquement ou culturellement intéressants?
20h10, le club de la presse numérique. Nous parlerons de souveraineté numérique ce soir, alors que le ministre de la Défense vient d'annoncer qu'il allait privilégier le moteur de recherche français Quant à la place de Google. Nous en parlerons avec Marc Basset, le correspondant en France d'El País, un journal espagnol qui prépare une enquête sur ce sujet pour son journal, et Eliott Lepers, activiste et fondateur du mouvement. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce soir. Cette émission est réalisée pour la première fois par Anna Holweck, bonsoir, avec en régie Alexandre Dang, c'est pas la première fois.
Oh non.
Elle a été préparée par David Lavaux sur les réseaux sociaux, Clara Brelot. Vous pouvez suivre cette émission sur Twitter au mot-clé Soft Power, ainsi que sur Instagram, sur Spotify, Facebook, LinkedIn en podcast, ainsi que sur France Culture, bien sûr, jusqu'à 20h30 en direct. Je commence cette émission avec les gilets jaunes triompheront. Le slogan tagué hier sur l'Arc de Triomphe, les gilets jaunes triompheront. À l'intérieur du monument, il ne reste rien, selon le ministre de la Culture qui s'est rendu sur place ce matin, de la maquette historique de l'Arc de Triomphe de 1930, pulvérisée. Le tableau de l'apothéose de Victor Hugo, prêté par le musée pour la nouvelle muséographie de l'Arc de Triomphe, est à terre, lui aussi dégradé, a pu constater ce matin le Figaro. Les gilets jaunes ont également forcé une porte en bronze située dans le monument monument, ils en ont tagué les murs intérieurs. Napoléon a été décapité, sa tête a roulé par terre et surtout, dans une alcôve moulage de la tête de Marianne, issue du départ des volontaires, de François Rude a été poignardé, troué, dévisagé, assassiné. Le visage de la statue désolée a tourné en boucle toute la journée de ce dimanche sur les écrans des télévisions continues du monde entier. Sur une face de l'Arc de Triomphe, les Gilets jaunes et ou les casseurs ont écrit « Vive le vent ». Si c'était un slogan un peu rimbaldien, on pourrait le trouver poétique. Mais c'est un tag qui vise, comme les statues défigurées et le Napoléon décapité, non pas à construire une politique, mais à tout détruire. La tombe du soldat inconnu symbolise les centaines de milliers, les millions de Français qui sont morts pour défendre notre pays. S'en prendre à ces symboles, c'est minuscule, c'est triste, c'est abject, c'est s'en prendre à la France. Les Gilets jaunes triompheront, ont-ils écrit, en s'en prenant à ces symboles de l'Arc de Triomphe, ils ont surtout montré leur lâcheté. L'actualité, comme chaque semaine pour commencer cette émission, l'actualité de la politique culturelle, des industries créatives et des médias, avec vous Zoé Sfez. Le ministre de la Culture, Franck Riester, qui, s'est rendu ce matin à l'Arc de Triomphe et d'ailleurs aussi au Jardin des Tuileries, a donné un entretien qui était sans doute d'ailleurs antérieur à ces questions.
Probablement, très largement.
Publié donc ce matin dans le JDD, où pour la première fois, il clarifie un certain nombre de questions. On va en prendre deux avec vous. D'abord, la question du pass culture, espèce de débat qui revient régulièrement.
Ça fait un an et demi qu'on en parle avec joie toutes les semaines ici. Frédéric Martel, alors évidemment, on se doutait que ce projet qui avait été voulu annoncer, qui était quasiment le seul d'ailleurs, qui était réellement, abouti dans le programme culturel d'Emmanuel Macron juste avant qu'il soit élu, avait été défendu, mis en place par Françoise Nyssen, ancienne ministre de la Culture, bien qu'on savait très bien qu'elle y croyait peu elle-même. Néanmoins, il est là, il va falloir y aller. Je rappelle qu'on ne sait toujours pas vraiment comment il sera financé. D'ailleurs, Franck Riester ne répond pas sur cette question. En revanche, on sait quand est-ce qu'il sera lancé. Il va être lancé juste là, le 1er février prochain, auprès de 10 000 jeunes volontaires, et ce, dans 5 départements. Alors, le choix des départements est, selon moi, assez intéressant, puisqu'on trouve, dans ces 5 départements, la Guyane et la Seine-Saint-Denis, qui sont deux départements où, probablement, les publics visés sont, pour, en tout cas, le ministère de la Culture, ceux qu'il essaye le plus, en tout cas, de toucher à travers cette mesure. Donc, ils auront ces fameux 500 euros qu'ils pourront dépenser tout au long de l'année de leurs 18 ans. Puis, il y aura une deuxième vague d'expérimentation, cette fois-ci auprès de 50 000 jeunes à partir de l'été prochain, avec des jeunes non volontaires cette fois. Donc là, on verra si les usages sont différents pour affiner. Alors, sur la généralisation, on nous avait dit 2020. Franck Riester dit que ce sera plutôt 2021.
Il parle d'offres culturelles géolocalisées, donc il cite l'expression puisque ce sera fait à travers une application pour un montant de 500 euros, vous l'avez dit. L'année de 2021, peut-être 2021 pour le généraliser ou pas, nous verrons. Il dit aussi qu'il faudra éditorialiser les contenus pour éviter justement que les gens se réabonnent à ceux qu'ils avaient déjà, et notamment essentiellement à du cinéma américain, des séries télévisées sur Netflix ou de la musique, je dirais, de masse sur Spotify.
Bah, c'était les deux arguments, mais ça c'est effectivement des arguments qu'il ne fait que reprendre, en fait, ce qui avait déjà été décidé du temps de sa prédécesseuse. C'est toujours très difficile d'essayer d'être inclusif avec ce mot, mais en tout cas, on savait déjà qu'il y avait la question de l'éditorialisation qui était cruciale et qu'il y avait aussi des limites, c'est-à-dire qu'il y avait des paliers. Vous ne pourrez pas dépasser, vous ne pourrez pas faire que du Spotify et ou que du Netflix avec ce pass culture. Vous aurez selon, et ça c'est une des grandes questions, comment, sous quelle modalité, on le sait encore peu, vous aurez probablement 25 ou 30 euros à dédier à des grandes plateformes, pas plus. Pour utiliser le reste des 500 euros, il faudra aller eh bien, acheter du théâtre ou des livres. Voilà. Donc ça, c'est une des deux, ça fait partie des espèces de deux choix qu'ils veulent entériner avec cette expérimentation. Je rappelle quand même, effectivement, et d'ailleurs le journaliste du JDD ne pose pas la question, qu'on a toujours une énorme inconnue sur la question du financement de ce pass culture.
Voilà, qui est dans les budgets, dans les évaluations, tourne entre 200 et 500 millions d'euros par an, voilà. Ce qui est une somme importante pour le budget du ministère de la Culture.
Et qui est supposé être financé par les partenaires qui en bénéficieront. Alors qui, comment, à hauteur de quoi? Est-ce que les libraires peuvent financer de tels coûts, par exemple?
Ça fait partie ou Netflix, des questions qui Spotify, alors qu'on poser. Le fait contre eux, etc. Un rapport a préconisé, on l'a vu, la restitution de dizaines de milliers d'œuvres conservées dans les musées français pillées, notamment en Afrique, pendant la colonisation ou acquises à des prix particulièrement bas. Le ministre de la Culture, Franck Riester, répond aussi sur cette question qui commence à faire polémique puisque l'ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, est monté au créneau pour s'opposer à cette question-là, notamment autour de la question est-ce que ces œuvres qui sont censées être inaliénables pourraient être, sans passer par la loi, être rendues.
Alors oui, la question est même beaucoup plus large que ça. Et d'ailleurs, Jean-Jacques Ayagon n'est pas le seul à publier des tribunes depuis qu'Emmanuel Macron a donc annoncé la restitution de 26 œuvres d'art au Bénin, des œuvres d'art qui avaient été pillées et ou volées à l'époque où on parle du royaume du Dahomey qui a été envahi
par les
Français.
Palais du roi Béhanzine.
Notamment. Et donc il y a eu cette annonce d'Emmanuel Macron. Depuis, il y a énormément de réactions, non seulement évidemment de Jean-Jacques Ayagon, qui rappelle que donc dans la loi, la question, les œuvres d'art qui appartiennent au musée français restent. Il y a le principe de l'inaliénabilité.
Ça aussi c'est dur à dire. Et pourtant, il n'y a pas d'inclusion.
Franck Riester explique que peut-être qu'il va falloir essayer d'assouplir et de changer la loi en la matière. Il explique aussi que le but n'est pas faire que de la restitution, mais essentiellement de faire mieux circuler les œuvres avec des prix à longue durée.
On sent même, d'une certaine manière, une évolution du discours, puisqu'il dit il n'y a pas que la restitution, il y a aussi les prêts, les dépôts à long terme, les expositions. Et il dit plus loin, l'objectif, c'est de faire circuler les œuvres et cela ne passe pas forcément par un transfert de propriété.
Oui, d'ailleurs, il parle d'ingénierie muséale, c'est-à-dire d'aller former aussi des conservateurs africains, parce que c'est quand même aussi l'argument de beaucoup des opposants de la restitution de ces œuvres d'art. On trouve énormément d'opposants. On a Jean-Jacques Ayagon, on a évidemment le directeur du musée du Quai Branly, qui se dit extrêmement choqué et qui explique qu'en fait, ce qui est intéressant dans ce fameux rapport, c'est que Bénédicte Savoie et Félix Winsart, qui en sont les deux rédacteurs, préconisent la restitution, en tout cas des œuvres d'art dont Emmanuel Macron a annoncé qu'il les rendre, pas uniquement au titre du fait qu'elles ont été pillées ou volées, mais en fait jette, disons, une espèce de discrédit sur toutes les œuvres qui ont été acquises pendant la période coloniale, qu'elles aient été pillées, volées ou qu'elles aient été achetées, finalement, en disant on était dans un rapport colonisateur-colonisé. Et donc, la question fatidique que tout le monde se pose en France, et y compris à l'étranger, c'est est-ce que ça va faire jurisprudence? Est-ce qu'on va vider, par exemple, le musée du Quai Branly? Il y a eu aussi un communiqué très énervé du SNA, le syndicat national des antiquaires, qui explique qu'ils n'ont pas été consultés dans la remise de ce rapport et qui dénonce un rapport partisan et pas l'œuvre d'une réflexion collective des acteurs de ce marché de l'art. Voilà, les crispations sont assez fortes. Il y a évidemment aussi une parole qui a été beaucoup reprise, celle de l'artiste contemporain Romuald Azoumé, qui lui-même est béninois et qui a souvent pris la parole pour dire que lui ne souhaitait pas que l'art, qu'en tout cas, et ses œuvres d'art à lui, qui est un homme contemporain, et ses œuvres béninoises ne soient restituées au Bénin, parce qu'il considère que le Bénin n'a pas encore les moyens d'en prendre soin de manière correcte. Donc vous voyez, les points de vue sont de plus en plus, tendus. Et Franck Riester essaie de naviguer là-dedans avec une réponse à la fois, ouverte et quand même qui reste assez souple.
Dans un instant, on parle de l'enseignement au code informatique et numérique dans Soft Power. Tous codeurs ce soir dans cette émission. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine par une actualité musicale, un mot sur l'exposition Michael Jackson Off the Wall au Grand Palais qui vient d'ouvrir et qui sera visible jusqu'au 14 février. Alors a priori, une telle exposition au Grand Palais pourrait surprendre. On se dit que la vénérable institution cherche peut-être à renflouer ses caisses avec cette exposition lucrative et un peu attrape-touriste à 13 euros par personne, avec une ristourne de 3 euros seulement si on a moins de 25 ans. Et tout ça pour quelques petites salles étroites dans un angle cornérisé du Grand Palais. La bonne idée toutefois des commissaires de l'exposition, une exposition au demeurant d'ailleurs itinérante, qui tourne un peu partout dans le monde, qui était à Londres il y a quelques temps, la bonne idée est de s'intéresser moins aux chaussures de la star ou à ses habits étincelants qu'aux artistes qui ont été marqués par The King of Pop. Alors beaucoup d'œuvres présentées sont très moyennes et on regrettera l'absence de la plus significative d'entre elles, à savoir le Michael Jackson and Bubbles de Jeff Koons, une intéressante œuvre en porcelaine où Jackson est avec son chimpanzé, mais pas au Grand Palais. Parmi les œuvres présentées, malgré tout, ma favorite est le magnifique portrait de Glenn Ligon, un important artiste noir américain qui signe un self-portrait at 7 years old, qui est incarné par Michael Jackson. C'est une œuvre très forte. On notera aussi l'influence que la star a sur des chorégraphes, notamment français. Trois d'entre eux, Raphaël Delaunay, Jérôme Bell et François Chéniaud, imaginent une œuvre performée sous forme de film. Et tout ça vaut le détour. L'exposition Michael Jackson Off the Wall est au Grand Palais sur les Champs-Élysées jusqu'au 25 février.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Hier, lors de la journée Portes Ouvertes d'EPITA, l'une des grandes écoles d'ingénieurs françaises spécialisées dans le numérique, son directeur a expliqué, lors d'une conférence, la plupart des métiers des 10 prochaines années n'ont pas encore été inventés. Alors quels sont ces métiers? Comment s'y former? Faut-il s'y préparer dès la formation initiale ou bien en formation continue? Tout le monde doit-il apprendre à coder? Comment la formation a été disruptée, transformée par le numérique? Telles sont les questions et quelques-unes des questions auxquelles nous allons vouloir répondre au cours de cette émission ce soir. Elles peuvent d'ailleurs vous paraître un peu spécialisées ou trop techniques, mais elles concernent en fait la vie future de vos enfants, de vos petits-enfants et peut-être aussi votre propre avenir professionnel si, comme le disait le patron d'EPITA, la plupart des métiers des 10 prochaines années n'ont pas encore été inventés. Trois invités ce soir pour discuter de ce sujet important. Romain Paillard, cofondateur du Wagon, rebonsoir. Frédéric Bardot, président cofondateur de Simplon.co. Simplon, rebonsoir. Enfin, Bernard Ramanantsoa, et je commence par vous. Vous avez été le patron d'HEC, la première école de commerce française pendant 20 ans, et vous avez vu, suivi, parfois essayé de précéder les évolutions, la révolution numérique. J'aimerais donc commencer par vous. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez vu peu à peu le numérique arriver à HEC?
Bonsoir à tout le monde. C'est une question très difficile parce que j'ai toujours peur quand on me pose ce type de question de réécrire l'histoire. Donc on va essayer d'être le plus honnête possible intellectuellement. En fait, vous parliez en introduction de disruption. C'est une vraie disruption, mais c'est une disruption a posteriori. C'est-à-dire que pendant que ça s'est passé, en fait, on n'a pas vu qu'on était en train de transformer, de bouleverser nos méthodes pédagogiques, l'univers, tout ça. On l'a pas vraiment vu.
Vous êtes arrivé en 95 à la tête d'HEC. Donc, oui. C'est juste le début. Il n'y a pas encore Google, on n'en parle pas
non,
vraiment.
On n'en parle pas. On parle pas d'Internet.
Il y a des ordinateurs déjà partout à HEC.
Il y a des ordinateurs partout, mais c'est encore considéré comme un outil, bien sûr, utile, mais pas totalement indispensable. On se pose d'ailleurs au niveau de la direction la question de savoir si on l'offre, si on
leur demande de venir avec,
etc. On n'est pas du tout au clair. C'est pour ça que c'est vrai que c'est une disruption, mais c'est pas du tout quelque chose de, comment dire, où on se dit pas non plus un beau matin.
Ça se fait vraiment pas à pas pendant les années.
Ça se fait pas à pas.
Qu'est-ce qui vous a marqué? Quels sont les premiers éléments où vous dites là et quelque chose qui est en train de se passer?
Alors il y a peut-être deux phénomènes qui m'ont marqué, surtout avec le recul. Le premier, c'est d'abord, à un moment donné, il y a toute une mode qui va arriver et on va dire, bon, on n'a plus besoin de profs, on va mettre tous les cours sur les DVD. Et d'ailleurs, il y a certaines écoles qui se sont, entre guillemets, amusées à jouer à ça. Ce qui peut être très tentant, puisque évidemment, le DVD est moins cher que le fait d'avoir des profs. Et donc, tout le monde se met à se dire, tiens, c'est peut-être une vraie révolution. Et j'allais dire heureusement, en fait, on va voir que ça ne marche pas, c'est-à-dire, et d'ailleurs ça ne marche jamais, c'est-à-dire que même aujourd'hui on voit un peu plus clair sur ce qui se passe, il y a toujours un besoin quelque part de professeurs. Les méthodes pédagogiques ont changé, les approches des profs ont changé, mais il faut toujours des profs. Et donc cet entre guillemets échec des DVD est probablement quelque chose qui m'a marqué. Après, il y a une deuxième chose qui m'a marqué quelques années, mais ça va très vite, quelques années plus tard. On discute en conseil d'administration d'HEC, justement d'Internet. Et on dit, on va mettre Internet partout, il faut que, voilà, et on explique ça aux membres du conseil d'administration. Et alors, il y a, on va dire, deux catégories d'administrateurs. Il y a ceux qui vont nous dire, il est bientôt temps, dépêchez-vous, vous traînez, qu'est-ce que c'est, pourquoi vous êtes en retard. Et puis ceux qui vont nous dire, mais vous êtes complètement fous de mettre ça en place, parce que, en fait, vous êtes en train de faire rentrer le diable, c'est l'expression qui est citée, dans cette institution qu'est HEC. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est-à-dire que c'était pas non plus évident pour des administrateurs.
Pour certains, c'était le paradis, pour d'autres, le diable.
Oui, le mot paradis, je ne me souviens pas qu'il a été prononcé, mais le diable, oui.
C'est-à-dire que oui. Est-ce que on pourrait dire qu'il y a une sorte d'idéologie du web qui a pénétré des grandes écoles? Alors, on prend HEC avec vous, mais on a reçu d'autres patrons de grandes écoles. Oui. et qui a bouleversé, je dirais, affecté la manière même dont on allait se former, que ce soit à travers des outils, à travers des fonctions, le travail collectif, le travail à distance, le hackathon, les MOOCs qu'on peut évoquer, on parlera tout à l'heure des bootcamps, la piscine comme mode de sélection. Est-ce que tout ça change HEC ?
Alors, c'est toujours compliqué de poser cette question et de répondre par oui ou par non. En fait, la chose intéressante, c'est de voir où est-ce qu'on met le curseur et comment on déplace le curseur. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose d'à peu près stable. C'est-à-dire, il y a un combat, évidemment, sur l'idéologie du web. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, maintenant, on n'a plus besoin de rien d'autre que du web. Tout est sur le web et on va tout trouver sur le web, etc. Bien sûr, ça pose des questions. Ça pose des questions en salle de classe, par exemple, si vous gardez des salles de classe, parce que vous avez tous les élèves, vous pouvez avoir beaucoup d'élèves qui sont en train de regarder les différents sites, qui ont un lien ou qui n'ont pas de lien avec ce que le prof est en train d'expliquer. Donc, je peux pas vous dire que c'est neutre.
On sait pas ce qu'ils font, exactement.
On sait pas ce qu'ils font. Donc, alors, ça change, c'est des points de détail, hein, mais c'est, voilà. Donc, vous avez des profs qui ont appris à faire le tour pour voir ce que les élèves regardaient.
Et ils voient des pages Facebook, des pages Instagram.
Après, vous avez des profs qui, mais ça, c'est plutôt un point positif. Qui en jouent et puis qui vont se dire il faut que je sois encore plus à jour, si je puis dire, si je peux utiliser cette expression, parce que les élèves peuvent vérifier ce que je suis en train de vérifier sur tout ça. Donc il y a des tas de réflexions pédagogiques. Il y en a un de mes collègues qui a trouvé une idée que je trouve très intéressante, c'est-à-dire qu'il dit aux élèves, non mais vous fermez vos ordinateurs, vos laptops, il y en a un qui a le droit à tout ça et qui prend des notes pour tout le reste de la classe, pour tout le reste de la promo.
Et il va les envoyer par...
Et il va les envoyer, etc. Et là, ce sera quelque chose d'intéressant. Donc, vous voyez, on voit bien, enfin, sur les exemples que je vous prends, j'espère que vous voyez qu'il y a pas un conflit, mais une confrontation d'un certain nombre d'idéologies. Mais je pense pas qu'il y ait une idéologie stabilisée. Personnellement, je pense que l'idéal, c'est ce mélange entre tout ce qui est de l'ordre du numérique, qui est indispensable, qui a de plus en plus important, et en même temps, ce qu'on appelle dans le jargon, c'est le présentiel. C'est-à-dire que je pense que plus il y a de numérique, plus il faut de la présence. Et des élèves entre eux, et des étudiants entre eux, et des participants. Vous parliez de la formation continue. C'est très important qu'ils soient là entre eux, avec un prof ou des profs au milieu.
Bernard Ramanantsoa, vous êtes le directeur général honoraire d'HEC. Vous en avez été le patron pendant plus de 20 années. Peut-être une dernière question dans cette introduction. Le processus de sélection d'HEC, grande école, école de commerce, école difficile d'accès, le processus de notation, est-ce qu'ils sont affectés par le numérique ?
Au plan vraiment technique, oui. Au plan fondamental, au plan des principes, pas du tout. Quand je dis donc au plan technique, oui, c'est-à-dire que maintenant, évidemment, on rentre les notes et on rentre les présences et on rentre les évaluations directement de façon numérisée. Je crois que mon successeur est en train de mettre en place tout un système pour reprendre les copies et les évaluer et numériser un petit peu tout ça. Mais c'est encore une fois quelque chose de très, que j'appelle technique, hein, c'est pas du tout péjoratif. On n'a pas du tout changé la philosophie de la sélection.
Romain Paillard, vous êtes cofondateur du Wagon. On rentre un peu avec vous et Zoé Sfès dans ce qu'est le Wagon.
Alors le Wagon, vous faites partie de ces écoles, de ces formations. D'ailleurs, qu'est-ce que vous utilisez comme terme, vous ?
Alors nous, on est un anglicisme barbare qui est bootcamp, mais on peut parler d'école ici.
Bah alors justement, qu'est-ce que c'est qu'un bootcamp ? D'où est-ce qu'il vient ce terme ? Parce que c'est un terme qu'on retrouve chez vous, évidemment, chez d'autres écoles ou organismes de formation, vous n'êtes pas les seuls. Qu'est-ce que c'est qu'un bootcamp ? D'où vient ce terme, et même on va dire culturellement ?
Alors, il vient de l'autre côté de l'Atlantique, ça c'est une évidence. Historiquement, un bootcamp, c'est une sorte de camp d'entraînement militaire dans lequel les gens vont ramper dans la boue, sous des barbelés, se faire tirer dessus, etc.
Et se former.
Et vous n'êtes pas les seuls, parce que du coup, le Simplon aussi, mais on reprend ces mêmes idées. Mais justement, alors, peut-être une question, parce qu'évidemment, on en parle ici, nos auditeurs ne sont pas tous familiers, peut-être, des méthodes, disons, que vous utilisez, vous, les méthodes, on l'a dit, éducatives, qui sont assez fondamentalement différentes de l'enseignement traditionnel, surtout en France et surtout en Europe. C'est des méthodes, finalement, le Wagon, vous l'avez fondé, je crois, en 2013, c'est ça ?
Oui, exactement.
Vous alors, étiez trois, en même temps à peu près que l'école 42, finalement.
Alors, on... littéralement le même été. On était trois associés. D'ailleurs, l'école de 42 nous a fait beaucoup de bien en termes de démocratisation du message autour de la programmation. Et l'école, aujourd'hui, on parle de rythme. Par exemple, là, nous, c'est un rythme de 9 semaines. Donc, c'est extrêmement court. L'école, elle va fêter ses 5 ans. On est dans une trentaine de villes un peu partout dans le monde. Et on vient de commencer la session 201. Alors, c'est un peu idiot, mais si on était une école à l'échelle d'une année, par exemple, on serait bicentenaire. En termes de, d'expérience et d'itération sur le programme.
Oui, et si vous étiez une école normale, vous n'en seriez qu'à votre 5e promotion, alors que là, en réalité, ce n'est pas le cas. On l'a entendu, 30 villes dans le monde, dont 6 en France, c'est quand même un énorme succès français. Mais vous étiez qui, vous, les trois fondateurs? Je crois que vous aviez des profils différents. Et quel était le constat des hommes jeunes, que vous êtes toujours, mais que vous étiez peut-être encore plus à l'époque?
Alors, effectivement, on a trois profils très différents. Moi, je suis un ancien avocat, et mes deux associés sont deux ingénieurs. À la base, j'ai lancé le wagon avec mon frère. On travaillait sur des petits. Je dirais pas qu'on s'ennuyait dans nos emplois respectifs, mais voilà,
un peu
le cas. Et on travaillait sur des petites applications web à côté, et on était extrêmement frustrés. Moi, le premier, puisque lui avait déjà une sorte de connaissance un peu quand même d'ingénieur en programmation, extrêmement frustré de pas pouvoir donner vie à nos produits parce que ça rallongeait tous les cycles de création, de conception de produits. Donc, on pouvait pas les mettre dans les mains des gens pour qu'ils les essayent. C'était extrêmement frustrant. En parallèle de ça, il y a les fameux bootcamps qui se lançaient aux États-Unis, et on trouvait le modèle très très intéressant. D'autant plus que le marché étant ce qu'il était et ce qu'il est toujours, les élèves qui sortaient de ces formations trouvaient très très rapidement des emplois.
Alors évidemment, on va reparler de vous, évidemment, d'École 42, mais notamment de ces principes, ce qu'on appelle les principes de la piscine, ces fameux principes du peer learning. Concrètement, en 9 semaines, après on va revenir sur ce choix des 9 semaines et sur justement qui sont vos alumni, c'est ça le terme. Qu'est-ce que concrètement,
les
comment est-ce que ça
élèves.
Se parle, les alumni? C'est le mot anciens élèves, même si le mot élève, et voilà, là, on parle d'alumni, c'est pas tout à fait le même mot que le mot élève. Concrètement, ça marche comment? Qui vous visait, qu'est-ce qu'on est censé apprendre en 9 semaines et quels sont les méthodes d'apprentissage, les méthodes donc qui sont appliquées aussi dans l'école 42, par exemple, un principe comme celui de la piscine ou du peer learning. On est sur vraiment deux méthodes disruptives, si on aime ce mot. Ça marche comment et c'est quoi? Pourquoi est-ce que ça se prête particulièrement bien à cet apprentissage du code?
Alors, nous, on est assez différents de 42 pour plusieurs raisons. La première, évidente, c'est 42, c'est plusieurs années, nous, c'est 9 semaines. Donc, on n'aura pas la prétention de se mesurer à ce que fait 42 en termes de temps, en termes d'approfondissement des domaines, etc. Donc, nous, on est concentré sur une matière spécifique qui est le développement web. Alors, c'est à la fois petit et à la fois immense. Donc, c'est développer des applications web. Le programme, je m'excuse pour les anglicismes, s'appelle Full Stack, c'est-à-dire qu'on aborde toutes les couches d'une application web. Donc, depuis la base de données jusqu'à l'interface qu'on utilise quand on se connecte sur un site, c'est en présentiel.
Donc, il faut être présent.
Exactement. Et je rebondis d'ailleurs sur ce qui a été dit tout à l'heure sur l'utilisation des nouvelles technologies, sur le en ligne, le présentiel, etc. Nous, ce qu'on constate au wagon, c'est que typiquement, tous nos cours sont déjà filmés. Donc, on pourrait donner comme directive à nos élèves de regarder les cours et puis de suivre le wagon, et puis on n'enverrait pas de professeurs. Ce qu'on réalise, c'est que...
Il faut qu'ils montent dans le train, quoi. Il faut qu'ils viennent.
Alors, en fait, c'est ça, ce qu'on appelle l'apprentissage mixte. C'est-à-dire, les nouvelles technologies sont des excellents tuteurs à l'apprentissage en présentiel. En revanche, pour ce qui est de l'apprentissage... en ligne pure, ce qu'on réalise, c'est que c'est très bien pour des 100% débutants qui veulent découvrir un petit peu un domaine, ou pour des experts qui vont aller faire du machine learning parce qu'ils sont déjà développeurs et ils vont aller faire un cours de Stanford sur Coursera. Entre les deux, il y a ce ventre mou de gens qui ont besoin de se former réellement à des vrais métiers, et là, en fait, le pur en ligne ne suffira largement pas, en général.
Et alors justement, on va revenir sur ce profil en deux mots, mais quand même, vous avez ce que vous appelez une pédagogie orientée produit. Vous allez nous expliquer pourquoi, ce qui vous différencie évidemment de 42. Pourquoi 9 semaines? D'ailleurs, vous le répondez sur l'une des pages de votre site web, la foire aux questions. Est-ce qu'on peut considérer que c'est vraiment une formation? Est-ce qu'on devient pro? Vous donnez un exemple versus, par exemple, un ingénieur qui aura fait 3 ans, ou quelqu'un qui aura fait l'école 42, qui, je le rappelle, n'a pas de durée du terme. Vous finissez l'école quand vous la finissez. 9 semaines, ça correspond à quoi?
Alors, 9 semaines, c'est déjà l'espace de temps contraint qu'on s'est imposé quand on a créé le programme. Parce que si on ne se crée pas des contraintes, on ne peut pas réaliser de performance dans ces contraintes-là. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que notre objectif, au terme des 9 semaines, c'est de faire en sorte que la personne soit recrutable. C'est-à-dire qu'elle ait toutes les bonnes pratiques du métier de développeur web et qu'elle soit en mesure de progresser par elle-même. En fait, la programmation web, c'est un milieu moi ça me fait un peu penser à mon ancien métier qui était celui d'avocat, où concrètement on se remettait assez peu en question, sauf quand la Cour de cassation prenait la décision, à ce moment-là on suivait, mais en gros...
S'il y avait une grosse jurisprudence, il fallait se remettre à jour, mais on n'était pas nécessairement
obligé. Alors que les développeurs,
obligés.
Ils se remettent en question tout le temps. Et ça, c'est de toute manière ce qu'un développeur devra faire, c'est ce que fait un développeur très expérimenté, et ce que sont capables de faire, nos élèves en sortant des 9 semaines.
Ça coûte combien ?
Alors ça coûte entre 6 et 7 000 euros.
Selon les villes, selon les pays,
ouais,
c'est ça ?
Oui, selon les pays. Et on est, alors en France, on est certifiant depuis maintenant un mois et demi. Donc on peut mobiliser des financements pour suivre la formation.
Dans la formation continue. Et
exactement.
Etc. Troisième invité ce soir, Frédéric Bardot. Vous êtes président et cofondateur de Simplon. Rebonsoir. Alors Simplon, finalement, c'est un autre modèle. On a eu une grande école, donc formation classique et je dirais formation qui de départ, hein, c'est-à-dire une formation qui commence lorsqu'on sort de l'école. Il y a le deuxième exemple, c'était le wagon. Donc là, on est plutôt sur quelque chose qui est sur 9 semaines, on l'a dit, c'est-à-dire donc une formation plus réduite pour se réorienter ou aussi pour, par exemple, pour connaître un peu ce qu'est le web lorsqu'on est un directeur d'une boîte et qu'on veut comprendre un peu ses développeurs. Là, avec
ou
vous...
développer son produit tout seul aussi.
Ou développer son produit tout seul. Avec Simplon, c'est autre chose. Là, vous formez des gens qui sont en difficulté, notamment qui viennent de Pôle d'emploi ou qui cherchent à se réorienter pour leur trouver, pour les former en un certain nombre de durées numériques.
Oui, on est parti du postulat inverse, en fait. Il y a des besoins dans le numérique, il y a des compétences en tension, des métiers en tension. Et nous, on y voit l'occasion d'aller chercher des gens qui sont éloignés de l'emploi, le plus éloigné de l'emploi possible, et dans des territoires le plus éloigné possible que vous pouvez imaginer du numérique. Et donc, on monte des formations gratuites dans des territoires fragilisés, pour des gens qui sont fragilisés.
Et là, vous choisissez 6 mois à peu près, c'est ça ? Enfin, il y a différents formats, mais notamment...
Ouais, c'est ce qu'on s'est dit, en fait, par rapport au bootcamp. On a été très inspiré des bootcamps, hein, forcément. Mais c'est vrai qu'on a fait deux petits tweaks, en bon français. On l'a fait gratuit. Donc ça, c'est la principale difficulté de Simplon, hein, c'est d'être sur un mode gratuit. Et l'autre chose, c'est qu'on est sur des gens qui sont à 60%, des gens qui n'ont aucun diplôme. Donc c'est vrai qu'on a allongé un peu la formation jusqu'à 6 mois.
Donc vous êtes une dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, NESUS, c'est ça, c'est le
c'est
statut
ça, voilà.
Social créé sous
Benoît
Hamon. Donc là, c'est des financements qui viennent de Pôle emploi, qui viennent des organisations de formation continue, etc.
C'est ça, les OPCA qui vont devenir les OPCO, et puis aussi les opérateurs régionaux, donc les conseils régionaux.
Les AFPA aussi.
Bah, les AFPA, c'est des organismes de formation comme nous, mais par contre, c'est les régions qui nous donnent effectivement des marchés publics qui nous permettent de former des demandeurs d'emploi. Donc, ils nous payent à l'heure de formation et nous, on va aller chercher des gens qui sont très, très différents de ceux du wagon, de ceux d'HEC, hein. Donc, on a des réfugiés, des personnes en situation de handicap. On retourne le truc, c'est-à-dire qu'on est sur le... Il y a des besoins dans le numérique, donc on va aller chercher des femmes, des gens diplômés, des réfugiés...
Des gens de la diversité, des quartiers...
Voilà, c'est ça, donc 40% de femmes, ça c'est
vous
vraiment...
Vous concentrez sur les métiers en tension, c'est-à-dire l'endroit où il y a de l'emploi, okay. Quels sont-ils ?
Bah, développeurs, hein, on est vraiment sur le même sillon que le wagon, hein, donc c'est le métier le plus en tension du numérique, mais il y en a d'autres, il y a administrateur système, il y a des choses... plus sexy comme Salesforce ou la blockchain.
Les fonctions de support, etc.
Il y a aussi effectivement le support utilisateur, le e-commerce, des gens qui sont administrateurs réseau aussi, ça paraît pas très sexy, mais il y a énormément de gens qui savent pas gérer des serveurs et des clouds privés.
En 6 mois, quels sont les taux d'embauche, de réussite ?
On est à 80% de sorties positives, donc ça veut dire qu'on a 70% des gens qui vont trouver un job, 10% des gens qui vont reprendre une formation qualifiante, une licence pro ou une fac. Et puis après, il y a des gens qui se mettent en auto-entrepreneur ou qui rattrapent une start-up, mais c'est assez minoritaire.
Vous êtes installé où ? Quand j'ai visité les trois campus que vous avez les uns les autres, ainsi que d'autres pour préparer cette émission. Je pense à celui d'Epita, d'Epitech où je suis allé, la Web Academy aussi, puisqu'il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui. Vous êtes présent où ? La carte de Simplon, elle est à la fois très présente à Paris, mais aussi partout en France et à l'étranger déjà.
Ah oui, vraiment, on est dans des endroits où jamais vous auriez l'idée de monter un truc comme le wagon. Hein. Donc on est sur l'île de Groix, on est à Tulle, on est à Pont-Orvoyant, on est à Molenbeek, on est à Marie-Galante, on est au Liban, on est à Zaatari, qui est un camp du HCR à la frontière syrienne. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de capitaliser sur les territoires et les gens, et après de bénéficier de l'effet de levier du numérique.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
L'instant, un extrait de l'album anniversaire du label français Headbanger. Pour ses 15 ans, cet anniversaire avait donné lieu à un concert au Grand Rex à Paris, où nous étions, où les morceaux célèbres du premier label électro-français, à la fois Justice, Sébastien, Cassius, le DJ Mehdi ou encore Mister Oiseau, sont repris avec un orchestre de musique symphonique. Le patron du label, Busy P, a réussi ce beau pari, dont l'album anniversaire Headbanger 15 ans vient de sortir. Il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Nous sommes ce soir dans Soft Power en direct sur France Culture dans une émission consacrée au numérique, à la formation numérique et au code. Faut-il que tout le monde devienne codeur, tous codeurs? On débat de ces questions avec Bernard Ramanantsoa, le directeur général honoraire d'HEC qui en fut le patron pendant plus de 20 ans, Romain Paillard, cofondateur du Wagon, Frédéric Bardot, président et cofondateur de Simplon. Alors on a évoqué vos trois expériences à tous les trois. Maintenant, on aimerait avec Zoé Sfez évoquer un certain nombre de questions transversales. Peut-être pour commencer, j'aimerais qu'on revienne sur les métiers. Quels sont selon vous, les uns les autres, les métiers? Si ce que disait le patron d'Epita hier est vrai, à savoir que la plupart des métiers de demain ne sont pas encore inventés, ceux qu'on aura dans 10 ans, bien quels sont, quels pourraient être ces métiers? Qui veut commencer? Frédéric Bardot peut-être?
Moi j'ai envie de dire qu'il y aura deux catégories de métiers. Il y aura des métiers de ninja, hein, des métiers de padawan. Il y aura des métiers de Jedi et des métiers de padawan.
C'est-à-dire?
Ça veut dire qu'il y aura des métiers extrêmement qualifiés qui demanderont d'avoir des études supérieures.
Ça, c'est le Jedi.
Voilà, c'est le Jedi.
Il est très qualifié, le Jedi.
Et après, il y aura les
techniciens. Il a un beau CV.
Voilà, c'est ça. Et après, il y aura les techniciens, il y aura des padawans, il y aura des gens qui seront dans le geste, dans l'artisanat numérique. Parce qu'on sait que le développement, c'est aussi du craftsmanship, hein, en bon français. Donc,
de l'artisanat.
De l'artisanat. Donc, il y aura ces deux catégories-là. Après, je suis pas devin, donc je saurais pas quoi dire.
Mais ça veut dire, d'une certaine manière, que vous trois, parmi d'autres, vous vous adressez à ces différents publics, puisque au fond, évidemment, HEC, c'est quand même une école un peu qui a formé des patrons, des directeurs, qui auront des directeurs techniques, qui ne feront pas le boulot, mais il va falloir qu'ils les comprennent. Puis, au niveau wagon, là, plutôt vous accompagner des gens qui peut-être sont des directeurs ou des responsables, mais ils veulent comprendre un peu aussi ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, pour le coup, Simplon, Frédéric Bardot, vous prenez des gens. Voilà. Non, mais sans les juger, mais ceux qui vont dans une boîte vont peut-être vous aider à monter votre ordinateur, à le brancher, à configurer un compte, etc. C'est ce que vous voyez se dessiner les uns les autres?
Oui, je crois que
Bernard Ramanantsoa.
Enfin, vous venez de faire une bonne synthèse, en tout cas de ce que j'anticipe un petit peu. Par définition, c'est difficile de prédire l'avenir, mais c'est ce qui va probablement se passer. Si on reprend la question du point de vue d'un profil type HEC, type grande école, Une des grandes questions, c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on leur donne un minimum de formation justement sur le coding. C'est quelque chose qu'on a mis
en
place.
Ils vont pas devenir des développeurs.
On sait qu'ils vont pas devenir des développeurs.
Il faut qu'ils comprennent.
Mais on sait qu'il faut qu'ils comprennent. D'abord qu'il faut qu'ils comprennent pour pouvoir parler.
Alors, vous manager ses équipes,
avec, etc. Mais qu'ils arrivent à comprendre quels sont les enjeux, les problématiques, mais plus globalement. C'est-à-dire que quand on dit que les métiers aujourd'hui, on peut pas dire ce qu'ils sont. En tous les cas, on peut être sûr que même les métiers qui résisteront à la révolution numérique seront complètement transformés. C'est-à-dire que, notamment avec la question des big data, la question des blockchains, ça n'aura plus rien à voir, même si ça portera toujours le même titre. C'est des choses qui n'auront plus rien à voir. Et donc, il y a ce besoin de créer des interactions dès maintenant.
Sur ces nouveaux métiers, juste, les uns les autres?
Alors moi je trouve que l'approche de
Romain Bayard,
allez-y. Je trouve que l'approche de Frédéric sur la hiérarchie qui va se créer, qu'on pourrait appeler une fracture d'ailleurs, enfin ça dépend de l'approche qu'on a, mais elle est très juste. Ça sert à rien d'en rajouter. Du coup je vais en rajouter une autre, une distinction qui est celle sur qu'est-ce qui a été créé. En fait, pour répondre aux nouveaux métiers qui vont naître, il faut s'interroger sur qu'est-ce qui a été créé. Ce qui a été créé, c'est énormément de données. Je crois que le nombre de données mondiales collectées double tous les 2 ans ou quelque chose comme ça. Donc ce qui a été créé, c'est de la donnée. Donc évidemment, il y a énormément de métiers autour de la donnée qui vont se créer, très peu ou presque pas qualifiés, mais il va y avoir énormément de métiers sur cette donnée-là.
Data scientist, etc.
Exactement, data analyst, etc. Et l'autre élément qui a beaucoup changé, c'est la notion, on en parle assez peu parce qu'on parle beaucoup de data science, mais c'est la notion de produit. En fait, on ne conçoit pas une application web comme on conçoit une Peugeot 205. Donc les produits aujourd'hui sont différents. Ils sont essentiellement en ligne. Ils répondent à des usages différents et donc ils appellent des formations différentes.
Justement, là, on parle depuis tout à l'heure de métiers dont le cœur, à ceci près qu'on a évidemment évoqué le cas d'HEC, mais qui sont finalement des métiers dont le cœur est le numérique. Or, c'est un petit peu l'autre question, et celle de vos formations. Il y aura aussi plein de métiers dont le cœur ne sera pas le numérique, mais qui finalement nécessiteront presque autant de savoir-faire en numérique qu'il en faut aujourd'hui pour travailler dans le numérique. Je ne sais pas si je suis claire quand je dis ça. Évidemment, la question du code à l'école reste une espèce de grand serpent de mer. Pour le moment, c'est toujours pas véritablement au programme. Comment est-ce que vous voyez ça, justement? Là, on parle des métiers qui n'existent pas encore. Qu'est-ce qu'on peut dire des métiers qui existent, qui existeront et dont on ne pourra pas se passer de connaître au moins quelques écritures? Là, on va en parler. On va peut-être essayer de faire un peu de pédagogie. Mais je ne suis pas sûre aujourd'hui que les Français parlent le langage web, par exemple.
Frédéric Bardot.
Bah, effectivement, hein, donc le code est dans le socle commun, hein, maintenant depuis Najat Vallaud-Belkacem, hein, donc il y a des cours normalement d'algorithmique du CP à la 5e, donc maintenant il reste à former 600 000 profs hein, pour que ce soit déployé
tout
sur
ça, c'est un petit détail. Non,
les élèves vont former les profs, ne vous inquiétez pas.
C'est un détail, et après vous avez raison, donc il y a le niveau de numérique qui permet d'être employable, et donc là on parle pas de développeurs ou de data scientist, il y a le niveau de numérique qui permet, quand on fait un métier, de monter à la capacité du numérique impacté par le métier. Donc on est, je sais pas, commerçant, on fait du e-commerce. Et après, il y a les métiers du numérique. Et ça, c'est vraiment trois strates très différentes.
Quel type de langage faut-il apprendre? Alors, c'est aussi une question complexe. Certains disent il faut apprendre certains langages. D'autres disent il faut apprendre tout simplement ce qu'est le code. Et après, on va apprendre par soi-même en fonction des langages. Est-ce que c'est comme les langues étrangères? Ou est-ce que au fond, il y a des socles communs, de ce point de vue, une sorte de latin qui permet après de comprendre tel ou tel code? D'autres disent, pour certains codes, il faut 2 années à temps plein. Donc, c'est quoi la réponse?
Alors, évidemment, ça va dépendre du niveau que vous attendez. Je peux rebondir juste sur la question précédente, parce que ça me permet de boucler. Mais en gros, aujourd'hui, Internet, c'est l'outil le plus utilisé partout dans le monde. Si je prends la voiture, par exemple, quelques décennies en arrière, aujourd'hui, ça paraît absurde de ne pas avoir son permis de conduire. En fait, Internet, il y a une façon de le voir comme un média, une façon de le voir comme un outil. Il n'y a toujours pas de leur permis de conduire.
Ouais, Zoé Spez n'a pas son permis de conduire.
Passe ton code d'abord.
Elle l'a raté 3 ou 4 fois, mais j'imagine qu'elle le perd ses verres. Continuez, pardon.
On a une vision d'Internet, du coup, comme un média, c'est un outil. Et en fait, cet outil-là, on a 2 façons de l'utiliser, soit de manière passive, donc là, on regarde Facebook, on regarde Google, etc., soit de manière active, c'est-à-dire qu'on prend la main sur l'outil. Cet apprentissage de la programmation et du code, elle a évidemment différentes couches. On peut faire le wagon et effectivement aller très très loin dans ces couches, ou simplement coder, faire un peu d'algorithmie sur plein d'outils en ligne. Il y a une base de programmation commune à quasiment tous les langages. Je vais essayer de pas être trop technique, mais en gros, la programmation, c'est écrire un ensemble d'instructions que va suivre une machine. Voilà. C'est ça, la programmation.
Il y a une grammaire, en fait, et que vous parliez russe, chinois ou ouzbek, en fait, il y a une grammaire commune.
C'est pas exactement la même grammaire, justement.
Et mais apprendre ce qu'est qu'un verbe, ce qu'est un nom, comment est-ce qu'on
une variable,
une phrase,
la logique va rester, la syntaxe va changer.
Et alors, donc, quels sont les codes?
Ah, les codes, c'est-à-dire
enfin, quels sont les langages,
de code? Différents types de langages.
Alors, il y a une foultitude de langages. En très très résumé, il y a des langages très très proches de celui de la machine et des langages très très proches de celui de l'homme. Et entre ces deux langages, on va créer des couches de vernacularisation.
Les deux extrêmes sont lesquels?
Le juge de paix, c'est l'entreprise. Qu'est-ce qui est en prod dans les entreprises? Donc, ça va être Java, par exemple dans les banques. Ça va être PHP, c'est la plupart des
dans le numérique.
Web,
ouais.
Et après, il peut y avoir du JavaScript, hein, qui est un bon intermédiaire.
C'est ça.
Donc, il y a des langages à la mode, il y a des langages qui sont déployés, et c'est à ça qu'il
vous
faut
faire. Vous défendez beaucoup Ruby chez vous, oui. Par
alors,
exemple.
Alors, on défend
pourquoi
beaucoup. On défend pas spécialement Ruby, on enseigne Ruby. On trouve que c'est un langage qui a une syntaxe jolie, agréable.
Poétique, un peu comme ça.
Mais il y a des langages plus jolis que d'autres. Il y a des écritures plus jolies que d'autres. Et Ruby, en soi, c'est un langage qui est très agréable à utiliser pour un débutant. C'est des logiques de programmation qu'il va retrouver dans d'autres langages dits orientés objets. Alors là, c'est un peu trop technique, mais tels que PHP, Python, enfin, il y a d'autres langages de ce type-là. Et c'est assez facile à prendre en main parce que c'est proche du langage parlé humain. Et en fait, comme on parlait d'entreprise à l'instant, le choix de la technologie, si vous voulez beaucoup beaucoup de performance, il va falloir trouver des langages très obscurs, très proches du langage machine. Si vous voulez, si vous pouvez faire un peu de place sur la performance et faciliter le travail des développeurs, ben vous allez faire du Ruby, du PHP, etc.
Une petite question sur la formation en ligne, puisque vous l'avez dit, donc vous avez donc cette offre présentielle avec ce programme, ce bootcamp en 9 semaines. Vous avez aussi, je crois, des offres à la carte en ligne. J'ai cru voir ça sur votre site, mais je suis peut-être complètement folle. En tout cas, il en existe en France. Il y a Udemy, il y a Coursera, il y a Udacity, il y a Open Classroom, qui sont complètement des formules tout à fait différentes, souvent à la carte. Vous inscrivez, des formations débutantes, ça peut être 10 heures par semaine chez soi pendant 4 à 6 mois. Ça peut être vous inscrivez à des projets, vous êtes tout seul, vous fédérez, vous êtes avec vos espèces de camarades, en fait, que vous les connaissiez ou pas, avec parfois des offres premium ou pas. Et ça, par exemple, c'est destiné à qui? Moi, je suis journaliste, je sais que vous avez parfois des journalistes aussi dans vos formations. Vous, par exemple, Romain, je suis journaliste, je suis tout à fait consciente qu'à partir d'un certain moment, il faudra peut-être que je m'y mette. Qu'est-ce que je peux faire, par exemple? Je suis avocat, je suis un jeune garçon qui travaille dans la finance. Comment est-ce que je peux justement faire une espèce de comparatif, et qu'est-ce qui pourrait me correspondre? Comment je le sais, ça?
Frédéric Bardot.
À chacun selon ses besoins, comme dit l'adage qui n'est pas un adage du numérique. Donc effectivement, il y a des gens qui sont capables de suivre des cours en ligne. C'est pas la majorité des gens. Hein. Donc à Saint-Plon, les gens ne sont pas capables de suivre des cours en ligne. Ils ont du mal à se lever le matin pour venir chez Saint-Plon. Alors se connecter sur un truc en ligne, c'est encore moins. Il y a des journalistes comme Amal Guiton, Morgan Tual, qui ont pu suivre des cours en ligne, mais elles sont
merci
privilégiées.
Pour leur pub,
ouais. Non, désolé, mais je
ils
sais
sont chroniqueurs,
une habituée de l'émission. Donc voilà. Donc effectivement, le présentiel, c'est quand même quelque chose qui reste assez fort. Hein.
Et alors après, il y a différents présentiels aussi.
Il y a du présentiel sans prof.
Il y a du présentiel comme l'école 42, donc là, il n'y a pas de prof. Et puis, il y a un présentiel avec des cours normaux. Et puis, après, il y a un peu des mixtes, au fond, ce qu'on appelle les blended. Comment on pourrait
alors,
résumer
sur la programmation, ce qui est intéressant. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la programmation, c'est probablement le domaine dans lequel il y a le plus de formation en ligne.
Gratuite.
Probablement passer devant l'anglais. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. La programmation.
Après, il y a tout et rien.
Hein. Oui. Non, mais alors, je vais pas citer des noms, mais l'avantage de la programmation, c'est un peu trivial ce que je vais expliquer, mais c'est que ça se prête extrêmement bien à l'autocorrection. En fait, le code, on peut écrire des tests qui vont corriger automatiquement le code. Une école comme 42 va capitaliser évidemment sur cette capacité au code et à la programmation à s'auto-corriger.
Et là c'est essentiellement du peer learning. On a reçu le directeur de l'école 42, c'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir. C'est du peer learning, c'est-à-dire au fond les autres élèves, les pairs, les autres étudiants vous corrigent. Ça se corrige entre eux, il n'y a pas de prof.
Exactement. Exactement, c'est extrêmement, moi je pense que c'est extrêmement efficace. Si on a le temps, typiquement pour une expérience comme celle de 42, pour une expérience comme celle de Vanille qui est très très courte, je pense que c'est un peu juste.
Mais c'est sûr qu'il y a un potentiel énorme. De l'aveu des gens de 42, hein, quand on a un problème, etc. Il y a des gens qui voudraient appeler un ami et qui voudraient appeler un soutien. Et c'est vrai que les pairs sont pas toujours en mode collaboratif. Hein. Ils sont peut-être sur d'autres exercices.
Et un tuteur vous apportera aussi des bonnes méthodes que votre pair n'a pas.
Bernard Ama Nantsoa, vous êtes l'ancien patron d'HEC. C'est le pair learning et des cours sans présentiel, ça vous inquiète ou ça vous intéresse?
Ah non, la réponse est sans hésiter, ça m'intéresse. Enfin, ça intéresse tous les gens qui sont dans le domaine.
La formation. Hein.
Dans la formation. Alors, je ne vais pas me lancer face à mes deux collègues, la spécialiste, sur la partie de la formation au codage et tout ça. Mais d'une façon très globale, c'est évident qu'aujourd'hui, on a introduit le numérique et notamment l'enseignement à distance. Les fameux MOOC, qui ont eu des succès fluctuants dans le temps et fluctuants entre eux. Et c'est quelque chose qui est évidemment aujourd'hui très important, mais comme vous le disiez, comme tout le monde le dit, la présence du tuteur est quelque chose d'essentiel. Et puis, il y a quelque chose, j'aurais même dû dire avant, si on arrive à faire interagir les différents participants entre eux, avec leurs différents profils, leurs différentes expériences, alors là, vous gagnez vous faites un saut quasiment quantique, puisque de toute façon, vous arrivez à additionner, voire à multiplier les expériences des uns et des autres. Des expériences culturelles comme les expériences professionnelles. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, on va vers un... Alors, encore une fois, on ne sait pas exactement où est le curseur, mais je pense qu'il y aura de plus en plus d'enseignements à distance, mais en même temps, il y aura de plus en plus de tutorat et de plus en plus de peer learning ou de peer teaching. Oui.
Une question, Bernard Ramanantsoa. On observe que HEC a des partenariats, notamment avec l'école 42, l'école polytechnique aussi. J'ai appris que l'ESSEC était en cours de négociation avec une école dont on taira le nom. Pourquoi faire des partenariats avec des écoles qui n'existaient pas pour certaines d'entre elles il y a encore quelques années, alors que vous êtes HEC, une des plus grandes écoles de commerce française?
Oui, je crois que c'est vrai. Alors pour toutes les écoles que vous avez citées et d'autres, je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'abord aller chercher les compétences là où elles sont.
Mais ça veut dire que vous ne les avez pas en interne?
Bah non, sur le coding, carrément, on n'a pas de prof de ça, non.
Donc, non vous auriez pu en recruter.
Oui, on aurait pu en recruter, mais enfin, il fallait aller vite en même temps, et donc c'est l'autre. Il y a quelque chose qui est beau, à mon avis, encore plus important, plus intéressant, c'est le fait de mélanger dans un projet pédagogique des profils très différents. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire mettre des élèves d'HEC, donc vous connaissez le profil, les caractéristiques, mais c'est pareil pour des élèves de l'ESSEC et autres, etc. Avec des élèves de l'école 42, avec des participants du wagon, avec des participants de milieux sociaux nettement plus défavorisés. À un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a une cristallisation.
Ça crée une émulation.
Ça crée une émulation. Et puis, c'est très productif. C'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles n'aurait pas pensé un élève d'un tel profil avant de rencontrer un participant.
C'est beau la diversité. Oui.
Question très avec HEC d'ailleurs au wagon.
Aussi. Question très très technique et un peu anecdotique, mais c'est quoi un GitHub? On dit souvent que c'est le Facebook des codeurs. C'est une bonne définition. On poste son code, un outil clé des développeurs. D'ailleurs, boîte rachetée par Microsoft. On crée son CV comme ça, d'une certaine manière.
GitHub, c'est merveilleux. C'est un Facebook intéressant. GitHub
qui comprennent le code, moins grand public.
Non. Alors GitHub, c'est un réseau social où au lieu de partager des photos comme sur Instagram ou
ses vacances,
des posts comme sur Facebook, vous allez partager effectivement des dossiers qui vont contenir du code. Ces dossiers, vous allez pouvoir donner accès à tout le monde ou les garder pour vous, un peu comme vos photos sur Instagram ou sur Facebook. Et voilà, donc ça c'est.
Donc les autres peuvent venir voir votre code, savoir ce que vous faites.
Si... Donc ça permet d'avoir un portfolio, ça permet de montrer sur quoi
travaille. Un portfolio de code en fait.
Exactement. Et en fait, au-delà de ça, ça permet aussi principalement à créer énormément de travail autour de ces projets collaboratifs. C'est la source de l'open source en fait. Un peu.
Pour terminer cette émission, cette première partie d'émission, passons un peu en revue, si vous le voulez bien, les uns les autres, les nouveaux secteurs. On en a déjà évoqué certains, mais quels sont les métiers, on l'a dit, mais aussi les secteurs. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, de sciences cognitives, de big data, etc. Les uns les autres, qu'est-ce que vous voyez comme étant des domaines importants?
C'est ce que le Syntec numérique appelle les SMACs, sécurité, mobile, intelligence artificielle, big data. Et puis après, tout ce qui est un petit peu nouveau, comme la blockchain, effectivement. Donc, bah, y a tout ça. Déjà, c'est énorme.
C'est pas mal.
Donc, c'est, quand vous prenez les données, la sécurité, le mobile, la programmation, et puis tout ce qui est blockchain, et après tout ce que ça génère, c'est déjà énorme. Hein.
C'est énormément de métiers, selon
des
vous.
Des centaines de milliers de métiers en tension. Plus de 150 métiers, hein, quand on dit le numérique, hein, derrière, il y a énormément de métiers différents.
Xavier Niel, lorsqu'il a créé l'école 42, il dit qu'il nous manque 100 000 développeurs en France.
C'est largement sous-estimé, hein, parce que ça, c'est les estimations des entreprises du numérique. Et maintenant, tout le monde est dans le numérique. Radio France est dans le numérique,
les banques, les assurances, les hôtels.
Tout le monde, ouais.
Romain Paillard.
Pardon. Sur le fait qu'il manque 100 000 développeurs, je pense qu'effectivement il en manque beaucoup plus. Après, sur la question qui était quels nouveaux emplois ça vont se créer, bah, je pense que Frédéric a bien répondu. Il y a surtout aussi énormément d'emplois qui vont disparaître. Enfin, je dis pas que ça fera forcément vaste communicant.
Donc
mais,
ça veut dire aussi que ces personnes qui ont des emplois qui risquent d'être menacées, il faut donc les former pour qu'elles puissent être monnayables, entre guillemets, acteurs de leur propre avenir avec du numérique.
Exactement.
Est-ce qu'on a le droit de poser une question quand même? Vous venez de le dire,
on a le droit,
actrice.
Oui.
On a quand même toujours un énorme problème dans cette histoire. J'aimerais bien vous poser la question à vous, le wagon. Les femmes, ça représente combien de gens qui s'inscrivent chez vous?
Alors nous, on a un taux qui est assez élevé par rapport, entre guillemets, au domaine. On a à peu près 30% de femmes par promotion.
Et c'est très élevé.
Bah, je crois que dans les écoles d'ingénieurs, c'est autour de 8.
Frédéric Bardot, vous?
Bah nous, on est intersectionnels, comme disent les féministes. Hein. Donc nous, en plus, on cumule les problèmes. Donc on a effectivement 40% de femmes qui n'ont pas de diplôme, qui viennent des quartiers, qui sont réfugiées. Donc effectivement, il y a un gros, gros souci. Hein. Et ça régresse tous les ans. Hein.
Ouais, sur les femmes, globalement, ça régresse tous les ans.
Tous les ans.
À un moment donné, est-ce que vous avez peut-être des pistes, vous, en termes de formation? Comment on fait pour aller le chercher? Bon, moi, je suis inscrite à Pôle emploi parce que je suis intermittente du spectacle. Je reçois 7 mails par jour de Pôle emploi qui me dit d'aller me former sur le numérique. Mais au-delà de ça, comment on fait concrètement?
Mais c'est culturel, hein, c'est pas vrai en Asie, c'est pas vrai dans
le Maroc. Après, on bosse avec des associations, enfin là, typiquement, on a un programme avec Paris, la ville de Paris, pour former 7 femmes dans la session de janvier sur 40 élèves, qui sont intégralement financées par la ville de Paris. Donc, on essaye, en fait, de trouver des solutions. Après, ça va doucement.
Dernière question à vous, Bernard Ramanantsoa, directeur général honoraire d'HEC. Est-ce qu'un jour, vous êtes dit, mais on va disparaître face à cette immense révolution?
Oui, avant, c'est oui. Et en particulier, je crois que mon successeur Peter Todd se dit aussi, est-ce qu'un beau jour on n'aura pas les GAFA qui se mettront à faire des écoles de management, voilà. Alors, d'un autre côté, on est raisonnablement optimiste. Hein. On pense que c'est un vrai métier, une école de business, et que tout le monde ne peut pas rentrer comme ça, qu'il y a des barrières à l'entrée. Et donc, voilà, mais bien sûr qu'on y pense, et on y pense en termes de perspectives stratégiques, bien sûr. Oui.
Ce soir, on a reçu donc le directeur général honoraire d'HEC, Romain Paillard, cofondateur du Wagon, Frédéric Bardot, président cofondateur de Simplon. D'autres écoles auraient pu être invitées, on ne peut pas avoir tout le monde. On en a reçu certains, comme l'école 42, déjà à plusieurs reprises. On a évoqué aussi Epita, Epitech, on peut citer le SIEE, on peut citer d'autres écoles également. Il y en a beaucoup en France. On mettra un certain nombre de liens vers un certain nombre d'autres écoles sur les réseaux sociaux. Vous pouvez obtenir aussi articles, livres et les informations, les références de cette émission. Tout ça sur le site de la page de France Culture consacrée à Soft Power, ainsi que sur Twitter et sur Facebook. Tout ça pour compléter cette émission. Merci à tous les trois d'avoir été invités de Soft Power ce soir. Dans un instant, seconde partie de cette émission avec à 20h10 le Club de la Presse Numérique. Et nous parlerons ce soir de souveraineté numérique, alors que le ministère de la Défense vient d'annoncer qu'il allait privilégier le moteur de recherche Quant à la place de Google. Et dans un instant, à 20h, Zoé Sfès, votre invité innovation.
C'est la productrice Séverine Latuyère qui présentait au Salon du Livre et de la Jeunesse et de la Presse Jeunesse de Montreuil ce dimanche un roman interactif, Les oiseaux ne se retournent pas, un roman interactif qu'on peut à la fois lire sur une tablette et qui sera bientôt une application avec cette question, comment est-ce qu'on fait entrer la culture et des contenus pédagogiques intéressants pour les enfants sur les tablettes et les smartphones de tout le monde.
Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power, disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Ça, c'est pour le podcast. Tout cela et la suite de Soft Power, à suivre après Let It Through sur France Culture.
told me to stay focused, keep that money on my mind, but I'm starting to think that it's all bullshit. Run it, I want to take it back to the basics, back to the basement, back to the old gray pads and make statements, follow it down. Mama watched me throw it all to the wind and rebound. Used to cry on the porch when I wasn't around, now she smiles from the side of the stage when I'm in town. Love ya, ain't a better feeling than the work. Was a younger when it started trying to put it into words. Now I'm grown, traveling the globe on a verse. Clock keeps ticking, I follow it to the dirt. Yeah, the worth, the price, the path. The man in the middle trying to keep it on the map. The train keeps moving down the tracks on schedule, so I just gotta open up the gates now and let it through.
Open up the gates now and let it through. Looking for a place with a better view. Side trying, it's time to make moves. Open up the gates, now I'm coming through. Sick of playing games and paying dues. Everything was upside down, but it's time now.
They told me to stay humble, and I ain't ever crossed that line, but I'm starting to watch where it was crumbled. Jump, I wanna take it back to the roots, back to the truth. Back to the rhythm and the blues, back to the chords on the...
À l'instant, le nouveau single du rappeur américain de Seattle, Griffs, Let It Through, sorti cet automne, un rappeur dont le nom est moins connu que les géants du genre, mais dont le son Midwest et même Northwest entre Chicago et Seattle montre une sensibilité et une mélodie assez originales. Il est précisément 20h sur France Culture.
France Culture, Soft Power. L'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Séverine Latulière, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonsoir Zoé.
Vous êtes réalisatrice mais aussi productrice. Vous avez cofondé en 2009 une maison de production qui s'appelle Naya Productions, qui produit des films théoriquement, qui travaille sur le cinéma. Mais cette fois-ci, vous venez parce que vous avez présenté notamment au merveilleux salon du livre et de la presse jeunesse qui vient, qui est en train de s'achever à Montreuil en ce moment, un roman graphique, c'est comme ça que vous l'appelez, qui sera bientôt, on en parlera peut-être, on l'espère, une application, intitulé « Les oiseaux ne se retournent pas ». C'est un roman graphique qui a été développé pour smartphone et pour tablette. C'est l'œuvre d'une jeune femme qui s'appelle Nadia Nahlé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout simplement, déjà, peut-être dans un premier temps, de quoi parle ce roman graphique? On va essayer de comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'il est assez particulier, justement.
Alors, Nadia Nahlé, c'est effectivement une réalisatrice au départ, qui a travaillé essentiellement sur les thèmes de l'enfance et qui a un parcours assez singulier, et donc du coup qui avait envie de travailler aussi sur l'exil. Elle est d'origine libanaise, et son père un jour lui a envoyé la photo qu'on a tous vue, Homs détruit en Syrie, qui est sa ville natale. Et du coup, elle s'est dit, faut parler de ce truc-là. On était en train de développer on est en train de travailler sur un projet de long métrage ensemble qui sortira en 2021, donc on a encore du temps. Et du coup, on s'est dit, tiens, pendant ce travail, est-ce qu'on travaillerait pas aussi sur cette problématique, puisque on réalisait que un quart finalement des enfants, des réfugiés sont des enfants, qu'on ne parle pas d'eux, que dans ce quart de réfugiés, il y a des milliers de mineurs isolés. Et donc c'est l'histoire d'une petite fille qui part de Homs sans ses parents.
Elle s'appelle Amel, elle a 12 ans.
Et elle va arriver jusqu'à Paris, après évidemment un voyage extrêmement compliqué, avec différentes étapes et différentes embûches. La narration, elle s'est faite à partir aussi d'un livre mythique qui s'appelle « La conférence des oiseaux » de Farid al-Attar, qui est un poème du XIIe siècle, et c'est l'histoire d'un oiseau qui va rechercher Dieu, et il va passer cette étape.
Un poème persan qui est central dans la littérature persane, qu'on connaît peut-être mal, mais qui est un espèce de monument, quoi.
Voilà, et c'était la base, finalement, pour écrire, en tout cas, la narration et les étapes d'Amel.
Alors justement, une question hyper idiote, vous l'avez dit, Nadia Nahlé, elle est réalisatrice, vous êtes productrice de cinéma, à quel moment vous vous retrouvez à faire un roman graphique qui est présenté au Salon du Livre de la Jeunesse? Pourquoi est-ce que c'est devenu un roman? Après je vais vous poser une autre question, pourquoi est-ce que c'est des gens du cinéma qui se lancent dans ce genre d'entreprise?
Alors, c'est un roman graphique, oui, qui ne sera disponible dans un premier temps que sur que via l'application. L'idée c'était de se dire, ok, aujourd'hui tous nos enfants, tous nos ados sont addicts et sont sur des écrans. Comment on leur parle d'un sujet qui peut les toucher, les mineurs isolés qui traversent la terre pour aller trouver refuge. Donc utilisons leur médium. Et en même temps, nous, on adore les livres. Donc, comment on fait pour mettre un livre dans une application qui va faire que tout le monde, dans le monde entier, va avoir accès, et même cette petite fille qui peut être aussi à Homs dans une maison détruite, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait des enfants qui avaient des téléphones aussi sur place, pour pouvoir regarder ça et leur dédier cette application pour leur donner espoir aussi d'une vie meilleure et donc d'arriver, et que c'est possible d'arriver à Paris et qu'il y a un espoir pour y arriver, à Paris ou ailleurs.
Et alors justement, pourquoi est-ce que ça se prête particulièrement bien? Vous l'avez dit, il y a une volonté clairement de toucher le plus de monde possible. Pourquoi est-ce que cette histoire-là, elle se prête bien justement à ce type de format? Comment est-ce que concrètement ça se goupille dans les mains? Comment est-ce qu'on découvre cette
alors,
histoire?
Alors vous ouvrez une application comme toute application. Ensuite, la première page du livre apparaît. Donc c'est un roman graphique, donc ça défile plutôt à l'horizontale, en scope. Et là, vous allez être actif. Et c'est ce qu'on demande aussi à nos enfants, c'est-à-dire plutôt que d'être addict et complètement passif devant l'outil, comment le rendre finalement actif. Et donc il va tourner les pages, il va scroller et il va tourner les pages à la vitesse à laquelle, comme il le souhaite. Et avec, s'il le veut aussi, un casque sur la tête, en tout cas dans les oreillettes, il peut entendre l'ambiance sonore, le design, la musique. Du coup, c'est Mohamed Bouzekri qui fait la composition originale, qui est un joueur de oud extraordinaire et un musicien à part entière, qui fait des études aussi en France, lui en ce moment au conservatoire. Stéphanie Verissimo qui fait le design. Et cette histoire va se dérouler, on va scroller, on va donc tourner page après page pour suivre le parcours d'Amel. Si on veut être passif, il y a un mode auto-scroll, mais l'idée c'est que les enfants justement tournent les pages et restent concentrés. Et reste concentré avec ce qu'il voit. Parce que ce qu'on voit aussi dans les applis, c'est que personne n'est... Enfin, voilà, on peut regarder une tablette, faire un contrôle de maths sur un ordinateur et un match de foot sur l'iPhone.
C'est le fameux en même temps qui est très propre au monde numérique. Justement, ce qui est très intéressant dans ce projet, qui est effectivement un très beau projet, c'est que vous veniez plutôt du cinéma. Comment est-ce que vous avez travaillé concrètement avec un développeur pour aboutir à ce résultat? Parce que je sais que l'un des freins, et on va en reparler, à ce qu'il y ait plus d'objets culturels de ce type-là, malheureusement vous n'êtes encore pas assez nombreux, c'est la question du développement. Est-ce que ça coûte très cher ou pas? Est-ce que c'est très compliqué?
Alors, très cher par rapport au cinéma, évidemment, c'est rien. Mm-hmm. Sauf que nous, on est les producteurs du film Adama, qui est sorti en 2015, qui continue encore. On a 39 salles encore cette semaine. C'est formidable. Bravo. Merci à tous. Et l'éducation à l'image est un lien important et on travaille beaucoup là-dessus aussi, sur nos productions de cinéma. Et on s'est dit, si on part sur des logiciels d'animation...
Donc d'images d'animation, concrètement, telles qu'on les connaît dans le cinéma, ça coûte très cher, ça pour le coup.
Voilà, ça coûte très cher et c'est très lourd pour l'objet
portable.
Et donc, on s'est dit, il faut trouver un autre moyen. On avait vu un projet dans la même veine qui avait coûté très très cher. Et moi, je me disais, c'est pas possible, il faut trouver un autre moyen, il faut sortir des logiciels d'animation classiques. Et là, on a rencontré un développeur qui est un développeur qui développe sur Unity, qui est un logiciel d'animation pour les jeux vidéo. Donc beaucoup moins lourd, parce qu'on n'a pas besoin d'être dans un format 4K sur une tablette ou sur un iPhone. Si je parle un peu à des gens...
Voilà, utiliser des systèmes de développement liés aux jeux vidéo, voilà. Ça peut être une alternative, par exemple.
Ça a été l'alternative. Il faut toujours que les gens soient un peu brillants et créatifs et trouvent des moyens pour contourner finalement les obstacles. Et donc, du coup, on a codé sur Unity et on a fait ça avec un budget extrêmement restreint, qui reste quand même évidemment de l'argent et cher. J'en profite pour saluer quand même le CNC qui travaille sur les nouveaux médias, la mission cinéma de la mairie de Paris qu'il fait aussi avec une formidable interlocutrice qu'on avait qui s'appelle Elodie Perricot. Amnesty du coup qui nous a suivis parce que cette application
parle évidemment aux questions liées à Amnesty, mais
des enfants.
Mais justement, moi c'est une question que je me pose, vous avez cité le CNC, vous avez cité la mairie de Paris. Est-ce qu'aujourd'hui, si on manque de formats de ce type-là, d'applications, de romans graphiques, là on l'a bien vu au Salon du Livre de la Jeunesse, il y a le Salon du Livre de Montreuil a essayé de mettre en valeur une douzaine d'acteurs qui fait ça, mais ils sont relativement peu nombreux. Ouais. Et effectivement, il y a cette espèce de hiatus assez étrange entre le fait qu'il y a un nombre de jeux vidéo ou de jeux tout simplement sur tablette et sur smartphone destinés aux adultes et évidemment aux enfants absolument disproportionné au regard de contenu pédagogique intéressant. intéressant. Ouais. Certains ne seraient pas. Donc du coup, les parents aussi sont un petit peu acculés à ce dilemme pas de tablette du tout, ou tout tablette, ou un peu de tablette. Pourquoi est-ce que, selon vous, productrice, on a peut-être pas encore assez ce type d'objet?
Bah, je pense que il faut. C'est comme les fictions qu'on invente, quoi. Faut inventer un nouveau monde là. On est au bord, hein. Donc il y a plein de choses. Donc moi, je dis, à partir du moment où on a des outils qui peuvent être efficaces, il faut faire rentrer le maximum de fictions belles et nouvelles dans la tête de nos enfants. Que ça soit avec des écrans de cinéma, que ça soit avec encore des télés, et que ça soit avec leurs outils. Et leurs outils, c'est des tablettes et des smartphones. Donc il faut qu'ils voient que c'est possible d'inventer des nouvelles histoires. Et qu'on peut le faire avec plein de choses hybrides, que ça soit un crayon et un papier pour écrire, traditionnellement, jusqu'à coder et inventer ces fictions-là. Si on n'invente pas ces nouvelles fictions et si on les propose pas à nos enfants, ils en auront pas l'idée. Et comme le monde est pas loin, le collapse c'est pas loin, il est temps d'inventer ces nouvelles fictions.
Une dernière question, du coup, cette application, elle est disponible quand? Et vous avez parlé d'un coût qui est effectivement moins important que pour le cinéma, plus important que pour un livre numérique bateau. Il vous faudrait combien de téléchargements, entre guillemets, pour amortir, et combien pour être content?
Alors moi, j'ai choisi de faire gratuit.
Les oiseaux ne se retournent pas.
J'ai choisi de faire gratuit parce que sur ce sujet-là, je voyais pas comment, moi, ma petite fille, si elle, la petite fille à Homs, là, si elle veut regarder l'application sur le smartphone, il faut que ça soit gratuit pour elle. Donc c'est gratuit. Donc ça coûte plus cher pour le producteur, puisque c'est beaucoup en fonds propres, à part les partenaires dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il nous manque encore de l'argent. On est au dernier cinquième, on va dire, pour livrer l'application. L'idée, c'est de la livrer en 2019. C'est les 30 ans des droits de l'enfant.
Et ça collerait bien. Question de langue, combien de langues?
Parce que toutes les langues. Parce que maintenant, justement, avec Unity, avec tout, on peut faire, enfin, en tout cas, toutes les langues. Peut-être pas le dialecte peul, au fond du Sénégal, mais en tout cas, je pense une grande partie des langues utiles et traditionnellement le plus communément employées, en tout cas.
Merci beaucoup, Séverine Latulière. Je rappelle que vous êtes donc productrice chez Naya Productions et que vous produisez cette application, ce roman graphique, Les oiseaux ne se retournent pas, de Nadia Nahlé, que donc on espère découvrir sur nos tablettes et nos portables dans le monde entier, courant 2019. Merci d'avoir été avec nous.
Le temps de vous recommander un article de Paresh Davé, petit clin d'œil numérique ce soir. Alors sur Gmail, Google a développé un outil qui est appelé Smart Compose, pour composer de manière intelligente des formules, des phrases, qui permet de compléter donc un début de phrase selon ce que vous avez l'habitude d'écrire. Le problème, c'est que ces suggestions n'étaient pas neutres sur la question du genre. Par exemple, si vous écrivez « Je vais rencontrer un investisseur cette semaine », le logiciel proposé systématiquement « Voulez-vous le rencontrer et non pas la rencontrer ?» C'est un exemple classique de la façon dont le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage par les machines, amplifie des biais présents dans la société. Smart Compose, donc cet outil, a été entraîné par des milliards de phrases rédigées par des humains pour comprendre et apprendre comment on écrit. Le système a donc fait le lien, trop souvent présent, entre le terme investisseur et le pronom masculin. Google n'ayant pas trouvé de solution à ce problème, il a tout simplement décidé de bannir les pronoms de leur logiciel en attendant de trouver une véritable solution. C'est l'article à lire. Ayant peur des biais, Google Blocks a bloqué les pronoms genre biaisés de sa nouvelle application d'intelligence artificielle. C'est un article de Paresh Davé à lire sur le site de Reuters en anglais. On vous met ses références sur les réseaux sociaux.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Club de la presse numérique ce soir. On parle de souveraineté numérique, alors que le ministère de la Défense vient d'annoncer qu'il allait privilégier le moteur de recherche français Quant à la place de Google. De Deezer à Dailymotion, en passant par Criteo, OVH, Price Minister, où en est le web français? Comment protéger nos pépites et éviter qu'elles soient rachetées avant de devenir des licornes? Pourquoi Deezer, par exemple, qui était français, appartient désormais à des fonds d'investissement, notamment américains et russes, et pour partie saoudiens depuis cet été? Pourquoi Price Minister a été revendu aux Japonais de Supercell? Pourquoi Quant ne pèse pas grand-chose face à Google et OVH? pas grand-chose non plus face à Amazon Web Services. Comment retrouver donc une souveraineté numérique? Pour en débattre, nous sommes avec Marc Bassetz, le correspondant en France d'El País, qui prépare un article sur ce sujet pour son journal et qui observe de près ces évolutions. Bonsoir Marc.
Bonsoir, merci.
Et Eliott Lepers, bonsoir. Activiste et fondateur du mouvement. Alors on commence peut-être avec vous, Marc Bassetz. Vous menez en ce moment cette enquête pour cet article. Qu'est-ce que vous observez et pourquoi vous est venue cette idée de réfléchir à la souveraineté numérique française?
Bon, d'abord, je trouve que quand on parle de souveraineté, c'est toujours une particularité française, que ce soit dans le domaine différent. Et le domaine numérique, je vois aussi cette particularité. Je n'ai pas observé dans d'autres pays avec la même intensité ce débat.
Vous ne lisez pas Trump sur Twitter?
Oui, Trump, oui, mais je crois qu'on peut entrer plus tard dans le débat américain qui est très intéressant dans ce domaine. Mais quand on parle de politique commerciale, par exemple, dans d'autres domaines industriels, c'est toujours la France qui défend avec un intérêt très fort et avec force la souveraineté. Dans le numérique aussi, et je suis parti un peu de ces questions de Quant.
Le moteur de recherche, donc Quant, face à Google, que le ministère de la Défense essaye d'imposer, au moins dans son administration.
Exactement. C'est probablement symbolique. C'est pas obligatoire, évidemment, et Google est très fort. Mais ça signifie quelque chose. C'est un symbole d'une volonté des pouvoirs publics de défendre les moteurs de recherche, les entreprises locales, et aussi de défendre les données. Parce que là, quand on parle du numérique, on est dans un business de données, pas données à une entreprise étrangère, un géant étranger comme
Sauf
Google.
Sauf que Quant travaille notamment et fonctionne pour partie avec notamment Bing qui appartient à Microsoft. Donc c'est français mais pas totalement français.
Oui, et c'est là probablement qu'on entre dans toute la complexité des symboles. Les symboles veulent dire ce qu'ils veulent dire et changent ce qu'ils changent. Je crois que l'évolution du numérique... probablement est impossible d'arrêter. Je ne crois pas que...
C'est-à-dire quelque chose de global et quelque chose qui n'est pas dans la souveraineté nationale?
Je crois que c'est difficile de voir la France arrêter cette...
La puissance de Google, par exemple.
Exactement, de Google, de Facebook et de l'Internet. On ne va pas réinventer la Silicon Valley à Paris, même si le président Macron fait des grands efforts pour avoir la Startup Nation.
Pas seulement le président Macron, puisque le président Jacques Chirac, le président François Hollande avaient dit, on se souvient de la phrase de François Hollande, on créera un Google français, Eliott Lepers, sur ce sujet, comment voyez le débat?
Je pense qu'il faut aussi faire la part des choses effectivement entre la technologie de base qui peut être utilisée et qu'effectivement qui n'est pas forcément nationale et ça n'a pas vraiment de sens d'imaginer qu'il y ait des technologies qui soient uniquement contraintes à des pays parce qu'elles circulent, parce que toutes les technologies s'appuient sur des morceaux de code qui viennent de partout dans le monde, par des créateurs de partout dans le monde, parce que effectivement le code est très souvent libre et c'est ça qui permet à l'innovation sur la technologie numérique d'exister. Et puis derrière la question de la marque, la question des entreprises, de où est-ce qu'elles payent leurs impôts, des emplois qu'elles créent, des cotisations sociales, etc. Sur la question de l'administration publique, qu'elles choisissent de plutôt soutenir des entreprises qui créent des emplois, qui paient leurs impôts tout court et qui les payent en France en plus, ça me semble tout à fait pertinent. C'est pour ça que le président français utilise une voiture qui est souvent une Citroën, en fait.
Donc s'il utilise une Citroën française, il faudrait qu'il utilise un moteur de recherche français.
Il y a le symbole, effectivement, de montrer que effectivement l'État est fier de ses propres produits et se satisfait de l'industrie qui existe dans le pays. Puis après, derrière, il y a un enjeu économique. S'il y a des investissements, l'utilisation de Quant, c'est pas le cas en l'occurrence, mais s'il y a plein de technologies où parfois on privilégie les solutions françaises, parce qu'il y a de l'argent public, c'est légitime que l'argent public français serve à développer des emplois non délocalisables en France.
Alors deux questions sur ce point. Alors d'abord la question c'est est-ce que ce sont des entreprises françaises? Là on peut prendre le cas de Deezer. Deezer c'est essentiellement un service de streaming pour la musique, créé en France par des Français, dont le siège social est toujours français, sauf qu'aujourd'hui, les investisseurs sont très largement, je l'ai dit en introduction, un groupe, je dirais, russo-américain, avec des investissements qui sont essentiellement aussi, désormais, depuis cet été, saoudiens. Donc c'est une société qui est plus trop française. Ça rime à quoi de privilégier une société comme Deezer, plutôt que, par exemple, Spotify, qui, elle, pour le coup, est totalement européenne?
Européenne, oui.
Oui, je crois que c'est toute la complication du capitalisme. Sauf s'il y a une entreprise publique, d'argent public, même Spotify un jour peut devenir américaine, japonaise ou chinoise. Ça, c'est incontrôlable, je trouve. Il y a une autre question qui est la souveraineté géostratégique. dans des domaines où il y a des intérêts vitaux.
Alors par exemple, on peut prendre l'exemple là pour d'OVH. Là, c'est du cloud. OVH est une très grande entreprise française, très puissante. OVH, c'est mettre ses données chez OVH, c'est mieux selon vous que de les mettre par exemple chez Amazon Web Services ou chez Google ou etc.
On se souvient d'ailleurs que le ministère de l'Éducation nationale avait hébergé des données sensibles de notation d'élèves sur effectivement Amazon Web Services. Effectivement, ça pose des questions. Moi, je pense qu'il faut pas se déconnecter. Qu'effectivement, on est dans des services qui peuvent être utilisés partout dans le monde, et donc il faut pas non plus être dans une perspective chauvine là-dessus. En revanche, effectivement, je pense qu'il y a un exemple à montrer de la part de nos administrations, mais il faut pas non plus que ça les pénalise. Je pense que l'enjeu aussi aujourd'hui, c'est qu'on a des problèmes d'investissement et la structuration du capital, effectivement, de ces licornes et de ces boîtes qui réussissent à l'international montre qu'on a des lacunes dans les mécanismes d'investissement en France. On peut s'interroger aussi sur les mécanismes publics d'investissement dans les entreprises qui sont pas toujours très transparents. On pense à la BPI. Il y a des millions d'euros qui sont investis par la BPI de manière pas forcément extrêmement structurée et stratégique.
C'est transparent, mais par contre, on peut débattre des choix qu'ils font.
Ouais, des choix politiques et stratégiques qui font pas forcément preuve d'une grande lisibilité dans la volonté de ces investissements. Mais derrière, c'est aussi effectivement que on a des entreprises qui fonctionnent, qui sont d'excellente qualité. Et donc, moi, je pense que l'État a des arbitrages à porter dans ce domaine-là.
Alors, d'excellente qualité, mais on peut prendre un autre exemple qui est celui de Dailymotion, qui est un équivalent de YouTube. Je dis bien un équivalent de YouTube parce que pour expliquer ce qu'est Dailymotion, on doit parler de YouTube parce que aujourd'hui, sur le marché français, Dailymotion est très faible, même s'il est plus important en marque blanche. À l'international, il est quasiment inexistant. Donc, c'est quoi vouloir défendre Dailymotion si c'est quelque chose de très peu efficace par rapport à d'autres équivalents, en l'occurrence face à YouTube, Marc Bassett?
Est-ce que les entreprises ont un drapeau? Je crois qu'il faudrait poser cette question.
En l'occurrence, on a voulu défendre Dailymotion et on a même empêché Dailymotion d'être acheté par Yahoo, ce qui peut-être a créé pour une part, non pas sa perte, mais en tout cas son affaiblissement, puisqu'Orange a investi, mais finalement s'y est pas vraiment intéressé, en tout cas pas assez, puisqu'elle vient de le revendre à Vivendi. On voit bien que la boîte cherche des investissements un peu, elle est à bout de souffle, et aujourd'hui elle n'existe pas, en tout cas pour les consommateurs français, même si elle existe pour ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire entre commerçants et ce que j'appelais les marques blanches.
Ma question serait, quel intérêt français défend, quel intérêt il y a pour la France à ce que Dailymotion, par exemple, mais on peut citer...
Reste français, ouais.
Reste français.
L'enjeu, c'est aussi que c'est des services qui fonctionnent par monopole. Mmh. Et le principe de Facebook, c'est que tous vos amis sont sur Facebook. C'est pour ça que c'est intéressant. Et il y a un concurrent de YouTube qui s'appelle Vimeo, qui s'est repositionné récemment et qui maintenant est uniquement sur une offre aux professionnels qui payent pour utiliser le service sans avoir de logo, avec une meilleure bande passante, etc. Donc ça veut dire qu'eux aussi, pas seulement parce qu'ils sont français, ils étaient américains, mais ils ont dû se repositionner face effectivement à l'hégémonie de YouTube. Et c'est tout l'enjeu de ces services. C'est comment est-ce qu'on arrive à imaginer un pluralisme et donc à créer des spécificités dans les services plutôt que d'essayer d'être frontalement opposés. Après, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est sain, mais ça c'est à nous consommateurs de le choisir, est-ce que c'est sain de se concentrer dans des services uniques qui derrière sont tout puissants?
Vous posiez la question tout à l'heure, Marc Bassett, de savoir quel était l'intérêt de privilégier des services français, ou en tout cas qui ne sont pas des services monopolistiques américains. Il y a quand même l'enjeu de la donnée, on peut quand même revenir dessus, on sait que la donnée est un enjeu. Et puis certains d'ailleurs considèrent qu'il faudrait que la donnée soit un bien souverainisable et nationalisable. Ça c'est une vision extrême. Je pose une autre question, mais vu qu'on parlait de ça, Quant, est-ce que c'est pas finalement un bon exemple? Parce que Quant, ça peut être une alternative à Google, pas la seule, mais vous pourriez avoir et Quant et Google sur votre ordinateur. Et d'ailleurs, je pense que plein de Français n'avaient jamais entendu parler de Quant avant cette annonce du secrétaire national de la Défense. Est-ce que peut-être plus qu'en réalité une utilisation monomaniaque de nos administrations uniquement de Quant, ça ne permet pas tout simplement de donner l'exemple.
Marc Bassett.
Oui, moi aussi j'ai appris l'existence de Quant.
Vous voyez que ça sert à quelque chose.
Mais est-ce que la donnée de Google appartient à Google ou appartient aux États-Unis? Je pense par exemple, surtout maintenant, à Facebook et Twitter. Facebook et Twitter sont mis en cause aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas servi les intérêts vitaux des États-Unis. En d'une certaine manière, facilitant l'ingérence russe dans les élections américaines. Donc je crois que la question de la souveraineté numérique est beaucoup plus nuancée et compliquée. Je ne crois pas que Facebook et Twitter travaillent pour les intérêts américains, et peut-être que certaines personnes diraient qu'elles travaillent contre les intérêts américains.
Elliot de Perse.
L'argument qui a fait choisir Quant, c'est aussi la protection des données. C'est qu'on est anonyme quand on utilise Quant. Et ça envoie un signal très fort aussi. Si le respect de la vie privée devient un critère de choix, ça envoie un signal effectivement à nos concurrents américains de leur dire, eh bien peut-être qu'il faut qu'ils évoluent sur ces questions-là. Quant, effectivement, c'est leur plus-value principale. C'est pas forcément qu'ils sont meilleurs sur les résultats, ils sont d'ailleurs un peu différents. En revanche, ça nous anonymise complètement. Et je pense que c'est à nous d'envoyer un signal fort en disant, aujourd'hui, c'est un critère.
Prenons deux autres petits exemples. D'abord, WeThinks. Et l'autre de Perse.
C'est un super, effectivement. Ça montre aussi les atermoiements de notre système
là,
économique.
C'est une entreprise qui vend des montres essentiellement connectées.
C'est des objets connectés, des balances. Beaucoup sur la santé, des thermomètres, effectivement, qui a été fondé en France et qui a été vendu par son fondateur à Nokia il y a 4 ans, si je ne me trompe pas, pour 170 millions d'euros. Et puis, au bout de quelques années, la greffe n'a pas pris. Et donc, le fondateur est en train de racheter, effectivement,
son activité à Nokia. Donc, c'est devenu Nokia et aujourd'hui, ça redevient français.
C'est ça qui est intéressant, effectivement. Et lui a dit, en fait, je veux reprendre la main parce que le développement stratégique de Nokia ne me convient pas. Et puis, Nokia n'est pas en mesure de porter, avec la singularité qui a été la nôtre, une entreprise qui a besoin d'innovation et pas d'être noyée dans un
groupe.
Alors,
exemple contraire, au Bon Coin. Alors là, peut-être Marc Bassès ne fait pas ses cours sur Au Bon Coin. Au Bon Coin, ça sent bon la baguette de pain française, le fromage et le vin des Côtes-du-Rhône. Au Bon Coin, c'est là où on fonce, c'est un marché où on peut échanger, vendre, faire du troc avec des produits, etc. Le Bon Coin. Le Bon Coin qui, en dépit de ce nom, Le Bon Coin est norvégien. Donc le nom est formidablement bien choisi, il a été localisé, mais on croit être dans une entreprise française, mais en fait on est dans une entreprise certes européenne, mais qui est norvégienne en l'occurrence, enfin, en tout cas d'une forme d'Europe, Marc Bassets. Alors, ça vous embouche un coin, on pourrait dire.
On la considère française, on la considère européenne, on la considère un exemple de souveraineté numérique, puisque, comme vous dites, elle défend des produits locaux, non ?
Des produits français. Hein.
Des produits français.
En tout cas, on peut échanger des choses dessus. Ouais.
Oui, la souveraineté numérique, à nouveau, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué que défendre des frontières et des intérêts commerciaux d'un État-nation.
Mais justement, est-ce que c'est une question, je vais dans votre sens, mais on a l'impression que chaque consommateur devient un petit peu un homme rationnel, au sens il doit faire des choix un peu sociologiques. Moi, j'ai eu ce débat 10 fois sur Uber, sur, par exemple, Taxify ou chauffeur privé. Taxify est basé en Europe, paye des impôts en Europe, ce que Uber ne fait pas, mais c'est des investisseurs chinois. Alors du coup, à quel niveau est-ce qu'il faut peut-être, nous, en tant que consommateurs, au-delà des questions des États, il faut qu'on pense les choses. Moi, ça me plaît, une boîte qui, même si elle est chinoise, paye ses impôts en Europe.
Moi, je pense qu'effectivement, il y a différents niveaux, quoi. Et je pense qu'il faut, on peut pas tout faire en même temps.
Voilà.
Et puis, il y a aussi la question de la qualité de service qu'il faut arbitrer. Et in fine, on achète des produits. Je pense qu'aujourd'hui, là, il y a une énorme campagne sur Uber, effectivement, où beaucoup de gens réalisent que Uber ne paye pas d'impôts. Et donc, ça devient un argument. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est de voir qu'on arrive à recréer autour de l'éthique des arguments de choix sur des produits en lien avec la qualité de service. Après, effectivement, cocher toutes les cases plus avoir un produit qu'on a envie d'utiliser. Il y en a aujourd'hui pas beaucoup.
Donc ça veut dire, pour résumer et pour conclure, au fond il y a plusieurs critères possibles. On pourrait par exemple dire un moteur de recherche comme Quant, c'est français, mais on pourrait choisir Ecosia. Là c'est un moteur de recherche, vous savez, qui plante des arbres. Chaque fois que vous l'utilisez, il vous permet ses bénéfices vont être reversés, ça permet de planter des arbres. Au fond, c'est notre critère que celui, Marc Bassès, pour conclure, d'être français.
Oui,
les arbres.
Oui, et si le résultat est un choix plus large, un marché, en réalité, un marché capitalistique plus vrai, sans monopole, je trouve que c'est une bonne solution.
On en reste là pour ce soir. Merci infiniment à vous deux. Elliot de Perse, activiste et fondateur du Mouvement. Marc Bassets, correspondant d'El País en France. On vous retrouvera d'ailleurs dimanche prochain sur une émission qui concernera les laïcités dans le monde. On verra comment la France a aussi un soft power à travers sa laïcité. Pour aller plus loin sur la souveraineté numérique, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur Twitter au mot-clé soft power et vous abonner au podcast de soft power sur notre site France Culture, sur iTunes et sur l'application podcast de votre
votre smartphone. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. Et j'ai encore le temps ce soir de vous signaler que Emmanuel Todd sera l'invité des Matins de France Culture. Donc demain, il parlera de la cartographie des colères françaises. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne. Merci Zoé Sfez.
Merci beaucoup Frédéric.
Et bonne fin de week-end.